Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Venue d'abord au Vietnam pour y voir sa filleule, parrainée via l'association Enfants du Vietnam, Rayan a fait le choix d'y revenir et de s'y installer. Je l'ai rencontré chez lui, dans la petite ville d'Hoyan, sur le seuil de sa galerie, entourée de sourires et de visages colorés. Sûrement avez-vous déjà vu ces images sur le web ou sur les réseaux sociaux. Rayan fait partie des photographes voyageurs les plus connus. Répondant à son invitation, j'ai pu prendre le temps de rencontrer le photographe et l'humaniste qui cueille en images sourires et émotions. L'émission Regarde ailleurs vous emmène à la découverte d'une histoire qui est la sienne. J'ai envie de commencer cette rencontre par la légende, par une petite légende, l'histoire du colibri. Est-ce que tu la connais ? Alors je vais te la raconter et tu me diras si tu comprends pourquoi je te la raconte. En tout cas, cette rencontre depuis quelques jours me fait penser à cette légende-là, où c'est une forêt qui brûle. Donc en Amazonie, tu vois la forêt qui est en train de brûler. Et tous les animaux sont du côté de la rivière, opposés aux flammes, et regardent cette forêt en train de brûler leur habitat. Et parmi ces animaux, il y a le petit colibri qui va prendre une goutte dans la rivière, qui va la poser sur les flammes, qui revient à la rivière, qui repose sa goutte sur les flammes. Et les animaux énervés lui disent « Mais colibri, mais arrête quoi, tu vois bien que la forêt brûle, et toi avec ton bec, ce que tu fais ça sert à rien. » Et l'oiseau répond simplement « Je sais, mais je fais ma part. » Et aujourd'hui, dans cette forêt qui brûle, chacun peut y voir une crise différente, une crise économique, une crise écologique, une crise de sens. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça finalement, faire sa part. Alors j'ai envie de te demander, Rayan, toi.
Alors j'ai compris le sens de l'histoire. Je pense que tu fais sans doute allusion à la façon dont peut-être aux raisons pour lesquelles je suis arrivé au Vietnam et puis les différentes raisons qui m'ont amené ici. Moi, quelle est ma part ? En fait, pour raconter un petit peu l'histoire, je suis venu au Vietnam parce que il y a 8 ans, ça va faire 8 ans cette année, j'avais le sentiment de gagner de l'argent, mais d'avoir qu'il manquait quelque chose. Et puis au fur et à mesure de mes voyages, je comprenais que... j'ai rencontré des gens qui étaient vraiment très heureux et qui n'avaient pas grand-chose. Et puis j'ai rencontré des gens qui ne nécessitaient pas beaucoup plus pour avoir une vie décente et des gens que je pouvais aider sans non plus me priver, ou alors en tout cas me privant de choses peut-être inutiles. Et donc j'ai décidé avec ma femme de dire écoute, on va essayer de parrainer, j'aimerais bien parrainer au Vietnam, c'est une première. Alors évidemment il y a plein de gens qui parrainent dans le monde, mais j'avais une idée bien en tête de quelque chose d'assez concret. C'était de parrainer et puis d'aller voir cette petite fille ou ce petit garçon, en tout cas la filleule, au Vietnam. Et donc en 2007, j'ai commencé à contacter plusieurs associations humanitaires par internet, par email et autres. Et certaines m'ont répondu, d'autres m'ont dit que c'était pas possible de rencontrer le filleul. D'autres m'ont même dit, vaut mieux pas aller au Vietnam, vaudrait mieux donner tout votre argent. L'argent du billet pourrait tellement changer la vie d'un enfant, enfin, etc. Ce qui me semblait complètement extrême. Et parce que je pars du principe qu'on n'a pas besoin non plus de faire de la charité ou en tout cas aider les autres, c'est pas non plus vivre, se mettre à leur niveau non plus. On n'est pas obligé de vivre comme un pauvre ou en tout cas de se sentir coupable de voyager ou d'être dans un pays occidental comme en France. Donc du coup, et puis j'ai trouvé une association qui s'appelle Enfants du Vietnam qui est basée à Argenteuil, à côté de Paris. Et le président de l'asso, quand je lui ai envoyé le mail, il m'a appelé aussitôt. Il était 9h du soir et on a passé 2 heures au téléphone. J'ai expliqué ce que je voulais faire, j'ai expliqué ma vision des choses. Mais j'étais vraiment intéressé par l'histoire aussi du Vietnam, l'histoire avec les Français, mais aussi beaucoup au niveau de l'histoire de la guerre froide. Donc je lui ai dit, voilà, je compte aller au Vietnam, j'aimerais bien visiter le Vietnam. Et si je parraine, je voudrais en tout cas rencontrer cette petite fille ou petit garçon. Et il m'a dit, c'est une super idée, avec nous c'est vraiment possible, au contraire ça nous intéresse, très peu de gens font cette démarche. Mais nous, ça, on va t'aider, on va tout organiser. Tu nous dis juste quand et on organise tout. C'était au mois de septembre, en 2007. En novembre 2007, je partais au Vietnam pour 3 semaines et donc 4 jours à Hoi An, la petite ville d'Hoi An, où vit cette petite fille qui s'appelle Thi, qui avait 7 ans.
Donc toi, ce que je comprends, c'est ce que tu as mis au cœur, c'est vraiment l'humain. Tu as choisi d'aider, donc ta part, pour en revenir à l'histoire du début, c'était d'essayer de trouver comment faire pour apporter un mieux-être à quelqu'un. Cette notion-là, cette notion humaine, cette dimension humaine, comment est-ce que tu l'expliques? Est-ce que tu t'es déjà posé la question du pourquoi? Est-ce que c'est le voyage qui t'a amené cette réflexion sur la pauvreté, sur les disparités?
Alors, oui et non. Alors, je pense que le voyage, je pense que j'avais ça en moi. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais toujours du côté des plus faibles. Si quelqu'un se faisait embêté à l'école ou quoi que ce soit, j'avais toujours ce sentiment de compassion et puis d'avoir envie de défendre le plus faible. Toujours, j'ai toujours été comme ça. Je crois, mais le voyage m'a ouvert les yeux sur la réalité, on va dire, plutôt. Sur la réalité, sur... je dis toujours que le voyage, c'est l'école de la vie, et je crois que c'est vraiment ça. Je pense que j'ai appris beaucoup avec ça, et l'humain, je pense qu'on l'est ou on ne l'est pas, mais on ne peut pas le devenir. Je crois que c'est quelque chose qu'on a en soi, en fait.
Avant de revenir au Vietnam, j'ai envie de savoir un peu le voyage, par où tu as commencé?
Je pense que mon vrai voyage qui m'a ouvert les yeux, ça a été Cuba. Cuba, ça a été un voyage important parce que j'ai trouvé un chauffeur taxi qui est devenu aujourd'hui mon meilleur ami cubain, qui a une dizaine d'années plus que moi, une quinzaine d'années plus que moi. Et ce monsieur, en fait, dès le premier jour, j'ai demandé un taxi. On m'a dit, voilà, il s'appelle Edel, c'est lui qui va vous conduire. Vous lui dites où vous voulez aller et puis il vous emmènera. Et en fait, on s'est mis à discuter, on a commencé à... Et puis je lui ai dit, je veux voir l'envers du décor, je veux pas voir le truc de touriste, je veux pas aller à Varadero spécialement, je voudrais voir le vrai Cuba. Alors ça lui a plu, parce que c'est quelqu'un d'assez intéressant, et la démarche lui a plu, il en a un petit peu assez d'emmener des touristes dans les trucs touristiques aussi. Donc il s'est pris au jeu, il m'a emmené dans des endroits, on était dans les petits villages, on a été voir des fermiers, des gens qui collectent les feuilles de tabac, etc., qui préparent les cigares, c'était vachement intéressant. Et là, je me suis dit, bon, en fait, voilà, on est mieux tout seul, plus qu'en groupe, et je me suis laissé porter parce que ce mec-là, en fait, qui m'a fait voir son Cuba, lui, et on a philosophé, en fumant des cigares, initiation aux cigares à ce jour-là. Et puis d'ailleurs, le cigare n'est jamais parti de ma vie, du coup, et lui non plus. Et voilà, ça a été mon premier voyage avant le Vietnam, en fait, hein. Et le deuxième vraiment gros voyage, ça a été le Vietnam, mais encore une fois, c'était pour une raison humaine. À chaque fois, finalement, je me suis rendu compte que dès que ça tournait autour de l'humain, c'était mes meilleurs voyages.
Là, quand tu es à Cuba, tu as déjà adopté deux petites Vietnamiennes?
Non, c'est Cuba, je crois, qui m'a fait le déclic, en fait. Quand je suis revenu de Cuba, j'étais un petit peu perdu. J'étais perdu, j'avais été un peu... ça a été comme un électrochoc plutôt, qui a réveillé quelque chose en moi, c'est en venant de Cuba que j'ai décidé vraiment de parrainer. C'est vraiment là, je voulais le faire depuis longtemps, comme tout le monde veut le faire, je crois, en France sans doute, mais on ne le fait jamais, ou on se dit on se fera ça plus tard, et puis un jour on oublie ça. Mais Cuba, quand je suis revenu de Cuba, j'ai dit, il faut que je change les choses, c'est le moment. Il m'a ouvert les yeux, ce mec-là, et c'est quelqu'un qui gagne, comme tous les Cubains, une vingtaine de dollars par mois, et qui était heureux, qui n'a pas l'intention de partir de Cuba. Ça m'a marqué, mais je me souviens qu'un jour, il m'a même dit, tu sais, vous avez un micro-ondes, mais quand il est en panne, c'est aux mêmes humeurs. Nous, on n'est jamais de mauvaise humeur, on prépare toujours à manger, parce que nous, de toute façon, on fait ça au feu et au bois, donc au feu de bois. Donc, on n'a pas ces problèmes que vous avez, en fait, que vous êtes créés. Donc, c'était rigolo. Et donc, voilà, quand je suis revenu de Cuba, c'est ça qui m'a marqué, en fait. J'avais envie de faire quelque chose. Je me dis, j'ai envie de faire une part. Je sais que je ne peux pas tout changer tout seul, mais j'avais envie de faire ma part. Et c'est là que ça a démarré, et le Vietnam s'est enchaîné. Et en novembre, donc ça c'était en juin, Cuba, et en novembre je partais au Vietnam. Et après le Vietnam, moi je pense que cette année-là, ça a été l'année qui a changé ma vie, quoi, 2007.
Y el salió Josefina y a buscar su encantero. Agnesa de ojos de fina y a buscar su buen caldero en casa de una vecina para tostar un buen café. En casa de una vecina para tostar un buen café. No estaba en casa de Eugenia y estaba en casa de Antonia. No estaba en casa de Eugenia y estaba en casa de Antonia. El caldero se ha perdido, no tiene otra persona.
Voilà, avec cette envie de parrainer, mais de venir aussi voir tes filleuls. Reparle-moi peut-être de l'association.
Ouais, alors Enfants de Vietnam, enfantsdevietnam.org, hein, c'est leur site internet. C'est une association entièrement bénévole, sans frais de salariés et autres. Il n'y a que des frais bancaires qui sont incompressibles, malheureusement. Mais voilà, donc c'est une asso qui. Le président de l'asso a adopté 4 enfants au Vietnam, parce qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants. Et donc le Vietnam lui a donné ses enfants, et lui donne toute sa vie pour le Vietnam aujourd'hui. Donc on a construit, parce qu'aujourd'hui je fais partie de l'asso, mais on a construit, enfin il et moi un petit peu après, on a en tout il y a une trentaine d'écoles, dispensaires, orphelinaires qui ont été construits sur tout l'ensemble du Vietnam, hein, de Sapa jusqu'au Mekong, même dans les hauts plateaux et même à Hoi An. Et donc c'est une asso qui parraine à 25 euros par mois. Il y a une vingtaine d'euros qui vont pour l'enfant et 4 euros, ce qui est 1 euro de frais de dossier, enfin de banque. Et il y a 4 euros qui sont pour les enfants non parrainés, c'est des parrainages collectifs en fait, voilà, pour qu'il y ait quand même des gens qui ne soient pas. Et voilà, donc chacun, on peut décider de faire que du parrainage collectif, soit on a un enfant attitré où là on connaît sa situation familiale. Bien souvent, des enfants qui n'ont plus de parents ou qui n'ont qu'un seul parent ou qui vivent avec leurs grands-parents parce que les parents sont partis. Des familles très pauvres avec des boulots complètement irréguliers, etc. Et donc du coup c'est vraiment des gens qu'on besoin, quoi.
Donc c'est comme ça que tu t'es lancé dans le parrainage. Tu as parrainé d'abord une filleule, tu es venu la rencontrer. À ce moment-là, tu dis le Vietnam a changé ta vie. Avant tu étais en France, tu travaillais en France. Comment est-ce qu'on fait le choix de quitter la vie en France pour venir s'installer ici?
Ça s'est fait en plusieurs étapes. La première, quand je suis venu à Hoi An, on est resté 4 jours avec cette petite fille, mais aussi sa sœur, d'où le parrainage suivant. En fait, quand on est parti après 4 jours, on s'est dit on va pas parrainer. Maintenant qu'on a passé 4 jours avec les deux, on se voyait mal repartir et parrainer encore. Donc la suite logique, c'était de parrainer la grande sœur ensuite. Et puis on a motivé plein d'amis autour de nous d'ailleurs à parrainer. Donc je crois qu'on a tous les enfants d'Hoi An, c'est des amis à nous qui les parrainons, la famille. Et donc on est venu tous les ans, on avait promis qu'on viendrait, on est venu tous les ans, une fois par an, deux fois par an parfois, un mois par an, deux mois par an.
Et après, ici à Hoi An à chaque fois.
Ici à Hoi An et uniquement à Hoi An juste pour elle, quoi, juste pour passer du temps avec elle. On essayait toujours de caler avec ça avec les vacances scolaires. On visitait autour d'Hoi An, mais notre intérêt c'était de rester 2 mois à Hoi An et les voir tous les jours. Donc voilà, donc ça c'était quelque chose d'assez intense du coup, quand on passe 2 mois dans une ville comme Hoi An. On est forcément marqué par la gentillesse des gens, par le rythme de vie beaucoup plus calme, beaucoup plus lent que la vie occidentale. Et puis il y a beaucoup moins de contraintes, beaucoup plus de liberté, contrairement à ce qu'on peut s'imaginer. Et donc il y a 3 ans, avec ma femme, avec Céline, on s'est dit je crois que c'est le moment de partir. À un moment, on se sent heureux quand on est là-bas, et à chaque fois qu'on rentre, on se sent plus épanoui, on se sent oppressé, on se sent pas à notre place. Donc j'avais une société, moi j'avais une imprimerie où j'étais associé, donc j'ai revendu mes parts à une autre associée et je suis parti. Je n'avais pas grand chose à vendre parce que comme on voyageait beaucoup, on n'avait jamais acheté d'appartement, on louait et on n'avait pas grand chose. Donc on a vendu notre télé, tous ces objets finalement symboliques, la télé, les choses comme ça. Et puis voilà, on est parti, on a décidé de partir pour le Vietnam, monter notre maison, acheter une maison construire une maison avec ces petites filles qui vivent aujourd'hui avec nous dans la même maison et puis payer leurs études et vivre avec elles. Et mon petit garçon avait 3 semaines le jour où on est arrivé au Vietnam. Il est né en France, mais voilà, on a eu un petit garçon entre deux et il grandit aujourd'hui au Vietnam et on vit tous ensemble dans la même maison.
Et ta femme, avant de partir, elle faisait quoi, elle?
Elle vendait des robes de mariage à domicile. Elle avait monté une société avec des franchises et tout. Et elle fabriquait les robes en Asie. C'était vendu à domicile. C'est-à-dire que les femmes qui voulaient se marier la contactaient pour essayer les robes, pour commander leurs robes. Ça évitait d'aller en magasin. Le concept marchait bien. On gagnait bien notre vie, tous les deux. Mais on n'était pas épanouis. On sentait qu'il y avait autre chose qui nous attendait. On avait envie de repartir à zéro, tous les deux, autre part. Enfin, tous les trois.
Donc vous avez fait ce choix de vie, de tout quitter pour venir reconstruire ici au Vietnam du côté de Hoi An. Tu disais que tu as vendu ta société, donc tu as pu construire ta maison, mais une fois que tu es là, que tu choisis de vivre au Vietnam, il faut aussi mettre en place un modèle économique.
Oui, bah, évidemment, moi j'ai toujours été entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai toujours eu plein d'idées. Je crois que Céline et mes amis me disent toujours que n'importe où j'irai dans le monde, j'arriverai à faire du business parce que j'ai toujours eu ce côté... Entrepreneur, voilà. Donc quand on est venu ici, entre deux, j'avais financé la boutique d'une Vietnamienne, une amie. Je lui avais financé sa boutique pour qu'elle soit indépendante, qu'elle ait pu une patronne, etc. Et puis c'était elle qui nous avait traduit les lettres, qui avait vraiment traduit toutes nos conversations avec les petites. C'était devenu comme la grande sœur. C'est devenu comme la grande sœur des petites, mais c'est aussi ma meilleure amie aujourd'hui. Et donc en fait voilà, on l'a aidé à faire cette boutique, dont en se disant bah, si ça marche, bah, on en profitera tous. Si ça marche pas, bah, c'est voilà, on te demande rien et l'argent qu'on t'a donné, tu le gardes. Et puis tant pis, on aura essayé. Et ça a bien fonctionné. Et puis moi, avec mes connaissances entre guillemets marketing, website, etc., j'ai fait un site en français, anglais, espagnol. On a fait du référencement naturel sur Google, etc. Et puis TripAdvisor et autres. Et ça, forcément, on avait une grosse avance par rapport à la concurrence. Les Vietnamiens, ils connaissent pas tout ça, donc on avait une énorme avance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette boutique est dans le routard, le petit futé, dans les guides américains, etc. Et que c'est la numéro 1 d'Hoi An et que ça marche. Parmi les 100 boutiques d'Hoi An, cette boutique-là vend plus de chaussures et de sacs à main que toutes les autres boutiques réunies, quoi. Donc c'était une réussite économique et du coup, ça a aidé à construire la maison. Entre deux, on a monté un restaurant aussi. Et puis moi, j'ai pu développer la photo depuis 3 ans. Je me suis vraiment mis à la photo. J'en faisais un peu avant, mais depuis 3 ans, j'avais le temps, j'avais que ça à faire. Parce que moi je travaille pas dans la boutique, et donc du coup je me suis mis à la photo, ça me passionnait, comme tout passionné, bah, je vais au bout, enfin j'essaie de perfectionner tout, et voilà. Et donc ensuite sont arrivées la galerie photo, les deux galeries photo, les expositions, la sortie de mon livre, et tout s'est enchaîné, quoi.
J'aimerais que tu me parles un petit peu du Vietnam avec quelques adjectifs. Quels seraient les mots ou les adjectifs qui te viennent à l'esprit quand tu penses au Vietnam?
Le sourire, ça c'est la première chose. L'énergie positive, l'optimisme. Moi tous les matins je me lève, je vais à mon restaurant, boire mon café et je traverse mon petit village de légumes et tous les gens me disent bonjour, ils me sourient. Je peux rentrer dans n'importe quelle maison, je peux aller boire le thé avec les gens, même si je vais dans Hoi An aujourd'hui, dans 10 minutes, je sais que je peux être dans une maison à boire le café avec quelqu'un ou le thé. Ou de la bière ou autre, et c'est ça qui est l'accueil et la qualité de vie est complètement unique. Des gens viennent à Hoi An et passent complètement à côté de ça, et puis il y a ceux qui viennent ici et puis qui absorbent toute cette énergie et qui en repartent avec les larmes aux yeux, comme on a vu certaines personnes récemment. Et donc moi, Hoi An, voilà, les Vietnamiens, et notamment Hoi An, mais les Vietnamiens sont comme ça, les Vietnamiens, qu'elles aient 80 ou 90 ans ou 40 ou 15 ans, et ils ont toujours ce côté un petit peu enfant dans leur façon d'être, leur sourire. Je veux dire, des femmes de 80 ans qui ont une vie quand même dure, qui ont été torturées pendant la guerre, etc., parce que j'en connais. Aujourd'hui, ils vivent en paix, ils ont pardonné, ils sont souriants, ils sont pas agressifs. C'est juste unique, quoi. C'est quelque chose que j'aime.
Como la sombra de la sombra hacia la selva se adentró, días enteros caminó con el fusil y la razón. Entre las lianas reposó, sobre las víboras cruzó, de clara pólvora vistió y a los pastores desplegó, buscando fuerzas para hallar la libertad agonizante. Y así fue que un día cayó en la sierra el claro comandante.
Je veux envie de revenir à ce qui t'a amené ici finalement, c'est d'avoir tendu la main à cette petite fille dans un premier temps pour, par un parrainage. Ce que je trouve intéressant dans ton histoire, c'est que aider quelqu'un peut complètement changer la vie de deux personnes, voire plus.
Je pense que cette histoire a changé la vie de beaucoup de personnes. La petite fille, donc Ti, forcément aujourd'hui elle a 15 ans, elle apprend l'anglais, etc. Elle est à l'école, elle y était déjà, mais là elle a une meilleure vie. Mais sa sœur, qu'on a décidé de parrainer en second, elle parlait absolument pas anglais. Aujourd'hui, elle va être prof d'anglais. Elle a encore un an d'université à faire. Elle sera prof d'anglais l'année prochaine. Elle apprend le français en parallèle. Et bah oui, ça, c'est un énorme changement.
Ça a changé ta vie, celle de ta femme. Ça a défini celle de ton fils aussi, ouais, qui est maintenant né en France, mais qui va grandir au Vietnam.
Et toute la famille autour de ma meilleure amie, ça a changé sa vie à elle. Elle a gagné 80$ par mois à l'époque. Aujourd'hui, elle revient du Japon. Elle est partie toute seule au Japon, en Corée. Elle vient d'avoir son visa pour l'Australie. Enfin, je veux dire, c'est une vie complètement différente, quoi. Et toute sa famille, sa maman travaille avec nous, son beau-frère, sa sœur, son oncle, sa tante et la nounou de mon fils. On a essayé de faire travailler le plus de jusqu'à son grand-père qui travaillait avec nous avant. Donc on a essayé vraiment de faire travailler, de changer. Ouais, ça a changé la vie de nous tous en fait, toutes nos vies, et puis celle de mon père et mon frère, puisque mon frère et mon père vivent aujourd'hui dans la même ville que nous. Donc voilà, ça a changé la vie de peut-être au moins une vingtaine de personnes en tout cas.
Quand tu penses à la France, est-ce qu'il y a quelque chose qui te manque ?
Oui, alors mes amis, bien sûr. Mes amis, ce qui me manque, c'est vrai qu'il y a... On a quand même beaucoup de choses ici. Si j'ai envie d'avoir 3 kilos de gruyère, je les ai ce soir. Si j'ai envie d'avoir un bon verre de vin rouge, je l'ai ce soir. D'ailleurs, on aura ce soir. On commence à avoir beaucoup de concerts, tu vois. Il y a Robbie Williams, Bon Jovi, Mariah Carey. On a tous les styles. Jason Mraz, il passe à Hong Kong, à Bangkok. Tous les 2-3 mois, on a des concerts comme ça à une heure d'ici. Donc, on a Disney World, on a pas besoin, tu vois. Je fête les 3 ans de mon fils à Disney World le mois prochain. Il y a le mois dernier, on était voir ma femme et les petites sont partis voir Mariah Carey à Bangkok, enfin tu vois, c'est vraiment, donc voilà, après mes amis me manquent, mais ils se font pas prier pour venir, ils viennent assez facilement, j'en ai qui viennent 2 fois par an ici, puis bon, je reviens quand même une fois de temps en temps en France, mais non, il n'y a pas grand chose qui me manque forcément, à la limite, je vais en France quand j'ai des expos, des choses comme ça maintenant, mais sinon j'y vais pas spécialement.
Voilà, donc tu me parlais de ton bouquin, là tu parles d'expo, tu me tends la perche, hein. C'est vrai que tu as commencé la photographie ici au Vietnam, tu as développé une sacrée communauté aussi sur le web à travers Rian Photographie. Parle-moi un peu de cette aventure.
Alors, moi j'ai toujours été convaincu que le marketing faisait... Enfin, elle pouvait être un point vraiment, pas stratégique, mais ça pouvait être vraiment un élément déterminant dans tout métier. Hein. Et bien sûr, il faut la qualité derrière, parce que tu peux avoir quelque chose de pas sans qualité, même avec la meilleure marketing, à un moment donné, ça s'essouffle aussi vite. Mais donc, j'ai toujours aimé la photo, et puis ici, Eoyan est un studio à ciel ouvert, à chaque coin de rue, il y a un modèle qui attend pour une photo. Donc il suffit juste d'ouvrir les yeux, juste d'attendre, de se poser des fois. On peut même faire un livre photo en s'asseyant au bord de la rivière et attendre tous les gens qui passent devant ce magnifique mur jaune classé à l'UNESCO. Donc je me suis mis vraiment à la photo, j'ai voulu partager en ligne, j'ai partagé, et puis les photos ont plu. La communauté a grandi, j'avais 1000 fans, aujourd'hui j'en ai quasiment, je pense que je passerai les 200 000 demain. Maintenant j'en ai à peu près 2 ou 3 000 par semaine en plus, et donc forcément c'est exponentiel, c'est viral comme on dit, et il y a eu plusieurs buzz aussi, hein. Il y a eu un top 10 des meilleurs photographes de voyage catégorie portrait qui est sorti l'année dernière en décembre avec Steve McCurry, etc. J'étais classé dans le numéro 4, donc ça m'a ouvert beaucoup beaucoup de portes pour les expos. Ça a attiré l'attention sur mon travail pour plein de galeries et festivaliers et autres. Organisateur de festival, et puis voilà un petit peu comment est arrivée la photo. Le livre a été un élément déterminant également. Publier un livre, ça, des fois on me demande qu'est-ce qu'un photographe professionnel. Je dirais que c'est quelqu'un qui a soit publié un livre, soit une galerie photo, soit qui peut vraiment en vivre. Moi j'ai les 3. Donc ça a accéléré ça, et puis le marketing, mon background marketing que j'avais, mon expérience d'avant m'a aidé aussi beaucoup. Parce que j'ai toujours lu les livres de marketing sur Coca-Cola, sur Google, sur tout ça. J'ai toujours essayé de comprendre comment fonctionnait l'univers de la publicité et autres. Donc du coup, quand j'ai mis en place ma page Facebook, ben, je me suis dit, maintenant, il faut la promotionner. Et puis, je ne suis jamais satisfait du... Je suis toujours très impatient, perfectionniste et insatisfait. Du coup, je ne me contente pas, quoi. Des fois, les gens ils me disent, oh, je leur dis, moi, j'ai que 4000 likes sur cette photo. Ils me disent, bah, nous, on aimerait bien en avoir même 1000. Et, mais pour moi, ce n'est jamais assez, parce que c'est pas être greedy, hein, ce n'est pas être avare ou quoi que ce soit. C'est plus être... avoir, j'aime bien les challenges en fait, et donc les défis, et puis, puis j'aime bien aller plus loin, toujours pousser plus loin, plus loin, plus loin.
Alors au-delà de l'image, il y a aussi l'humain. Aujourd'hui, tu m'as emmené dans une belle aventure, aujourd'hui c'est ton anniversaire. On a passé ton anniversaire avec Beauty Song, qui a aussi fait la couverture de ton livre qui est devenu un best-seller. Tu t'appliques aussi, grâce à la photo, à pouvoir mettre l'humain au cœur et surtout pouvoir apporter un retour aux personnes photographiées.
Oui, je pense que c'est une chose que beaucoup de photographes oublient, c'est que le modèle finalement, enfin que le photographe n'existe pas sans son modèle et vice versa, ils sont intimement liés. Et quand on oublie le modèle, finalement, ça veut dire que le photographe ne sert que de décor à. C'est un décor narcissique et donc du coup moi j'ai toujours eu envie d'avoir une histoire derrière ma photo parce que je pense que ça donne plus de puissance à la photo. Beauty Song, c'est assez drôle parce que je l'ai rencontré plusieurs fois lors de mon premier voyage. J'étais déjà sur son petit bateau au bord de la rivière et en 2011 je suis venu, j'ai fait une petite photo d'elle. Et cette photo, c'est la couverture de mon livre aujourd'hui. Et l'année dernière, en 2013, fin 2013, en décembre, j'ai décidé de sortir le livre. Bah, tous mes amis, puis quelques autres photographes m'ont poussé, m'ont dit tu devrais sortir ton livre. Je cherchais une photo pour ma couverture et je suis tombé sur cette photo-là. Et je sais pas, ça a été le déclic. Je me suis dit ça représente vraiment le Vietnam comme moi je le vois. La joie de ces personnes âgées malgré leur vieillesse, malgré leur pauvreté. Une joie et le sourire dans les yeux, le côté coquin un petit peu, le côté encore enfant même d'une personne âgée. Et c'est rigolo parce que du coup je me suis dit bon je vais la mettre en couverture mais j'aimerais bien quand même parler de son histoire donc je vais l'interviewer. Et en l'interviewant, ma dernière question c'était au fait t'es né quel jour? Elle me dit le 4 mai, je dis bah comme moi je suis né le 4 mai aussi, alors à quelques années d'écart quand même. Elle est née en 1937 pardon et moi en 79. Et donc du coup, cette année j'avais envie de retourner la voir. On est devenus amis parce que l'année dernière, la première personne, quand j'ai eu mon livre en janvier 2014, la première personne qui a eu le livre, bah, c'était elle. Je suis allé la voir, je lui ai offert le livre. Elle était très, très étonnée, elle ne s'imaginait pas ça. Et puis, je lui avais promis, dans une des questions de l'interview, elle m'avait dit qu'un de ses rêves, c'était d'avoir un nouveau bateau, parce qu'elle avait un bateau qui était vraiment cassé, qu'elle avait peur un jour de se retrouver au fond de la rivière, et les touristes avaient vraiment peur de monter sur son bateau. Et elle vit de ça aujourd'hui, son argent, son mois, c'est l'argent qu'elle gagne sur son bateau. Elle gagne 1 euro pour une demi-heure avec une personne pour 30 minutes à pagayer pour un touriste. Donc c'est quand même pas facile, mais elle vit de ça. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, si le livre se vend bien, je t'achèterai ton bateau. C'est parti sur une espèce de petite promesse comme ça. Et le livre s'est vraiment bien vendu. Et le lundi matin à 8h, elle était là devant mon resto. Elle m'a emmené sur son bateau avec son mari. On était allé chercher le nouveau bateau. Et aujourd'hui, voilà, elle travaille sur ce nouveau bateau. Ça a changé sa vie, évidemment. Parce qu'elle a plus peur, parce que ça sécurise sa situation aussi. Et puis parce qu'elle est heureuse. Elle veut pas arrêter de travailler. Elle est heureuse sur son bateau. Elle veut pas rester à la maison. Elle dit qu'elle s'ennuie toute seule à la maison. Donc, elle a envie d'être sur son bateau, de rencontrer les gens. C'est ça qui lui fait plaisir. Et comme tu l'as pu le voir, on est allé là-bas et comme tu as pu l'apprendre en même temps que moi, c'était la première fois qu'elle fêtait son anniversaire et qu'elle voyait qu'elle avait un gâteau d'anniversaire. 78 ans quand même, il était temps. Et donc c'était émouvant. Son mari nous a fait une belle chanson improvisée avec des paroles, alors en vietnamien, mais notre ami a traduit, qui parlait de notre relation, que ça avait changé leur vie, etc. C'était très émouvant. Ma meilleure amie a eu du mal à faire la traduction, un peu d'émotion. Nous, on était un petit peu en décalage à cause de langue, mais... voilà, donc voilà aujourd'hui notre relation, c'est devenu une amie quoi.
Donc en tant que photographe, tu mets un point d'honneur à essayer de garder le lien avec tes modèles.
Oui, parce que ça donne de la puissance à la photo. Ça, quand tu racontes la photo, moi j'ai fait pleurer plein de gens, des gens qui viennent à ma galerie, je leur raconte l'histoire, ils sont émus quoi.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Le voyage.
Regarde ailleurs.
Chemin le plus court pour se découvrir soi.
Ma vie est rythmée par l'école de mon fils et puis mes expos, Mais en fait, j'essaie de passer quand même du temps aussi à rien faire, parce que c'est quand même pour ça que je suis venu au Vietnam. C'était aussi pour changer de vie, pour une qualité de vie, de slow life.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Regarde ailleurs.
Partageons les couleurs et les différences.
Voir, entendre,
sentir,
toucher.
Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.
Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi.